Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'ami américain » d'Eric Branca est un essai d'histoire politique consacré aux relations entre la France et les États-Unis de la Seconde Guerre mondiale aux décennies qui suivent, avec une attention centrale portée à Charles de Gaulle. Paru dans la collection historique grand public, l'ouvrage propose une lecture documentaire et polémique à la fois fondée sur des archives déclassifiées, des mémoires et de nombreuses sources secondaires. Son objectif est de revisiter un récit souvent simplifié de la libération et de l'après-guerre, en montrant que l'alliance franco-américaine fut traversée par des rapports de force, des divergences stratégiques et des tentatives d'influence. Le livre intéresse autant l'histoire diplomatique que l'histoire politique intérieure, car il relie les choix américains à la question de la souveraineté française. L'ouvrage se distingue par son angle très gaullien, qui met en avant l'indépendance nationale comme fil conducteur d'une période entière. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la remise en cause du mythe d'une libération américaine sans arrière-pensée. L'un des apports majeurs du livre consiste à déplacer le regard porté sur 1944 et sur l'idée d'une libération purement désintéressée. Eric Branca ne conteste pas le rôle militaire des États-Unis dans la victoire alliée, mais il examine la dimension politique de leur présence en Europe libérée. L'ouvrage montre que, dès la guerre, Washington pense aussi en termes d'influence, d'administration des territoires et d'organisation de l'après-conflit. Cette perspective change profondément la lecture traditionnelle, parce qu'elle rappelle qu'une libération peut s'accompagner d'un projet de contrôle. Le livre insiste ainsi sur la différence entre l'aide apportée à un allié et la volonté d'orienter sa reconstruction. En ce sens, il ne s'agit pas seulement d'un récit sur la guerre, mais d'une réflexion sur la manière dont les puissances victorieuses définissent l'ordre international. Cette critique du mythe libérateur donne au livre sa tension principale et explique pourquoi il suscite souvent des réactions très contrastées. Deuxièmement, De Gaulle face à la pression américaine, la souveraineté comme ligne de rupture, le cœur de l'ouvrage est la confrontation durable entre Charles de Gaulle et les États-Unis. Branca présente le général comme le principal obstacle au plan américain lorsqu'ils entrent en collision avec l'autonomie française. Le livre met en valeur une logique constante pour De Gaulle, l'alliance n'a de sens que si elle respecte l'indépendance nationale, alors que pour Washington, une France trop autonome devient imprévisible. Cette opposition ne relève pas seulement de l'ego ou d'une différence de style diplomatique. Elle porte sur la définition même d'un pays allié. L'auteur montre comment cette tension traverse plusieurs moments clés, de la guerre à la guerre froide, et comment De Gaulle s'emploie à refuser la dépendance politique, militaire et symbolique. L'intérêt analytique du livre est de faire de la souveraineté une question concrète, mesurable dans les décisions, les pressions et les arbitrages. Le personnage de De Gaulle y apparaît moins comme une figure héroïque abstraite que comme un acteur stratégique dans un rapport de force international. Troisièmement, l'âme goth, Vichy et les projets américains pour la France de l'après-guerre. Le livre accorde une place importante au scénario envisagé par les États-Unis pour administrer la France à la libération, notamment autour de l'idée d'âme goth, c'est-à-dire une autorité militaire alliée des territoires occupés. Sans réduire l'histoire à ce seul projet, Branca l'utilise pour illustrer le degré d'intervention auquel certaines autorités américaines étaient prêtes. Cette partie éclaire aussi les choix initiaux de Washington à l'égard de plusieurs figures françaises, dans un contexte où la légitimité du pouvoir était encore instable. Le mérite de cette approche est de montrer que les querelles diplomatiques ne sont pas apparues. Après coup, elles étaient présentes dès les derniers mois de la guerre. L'ouvrage donne ainsi une lecture institutionnelle de la crise, où la France n'est pas seulement un champ de bataille libéré, mais un espace dont l'organisation future devient un enjeu entre alliés. Cette analyse aide à comprendre pourquoi la reconstruction de l'État français fut aussi une bataille de souveraineté, et non seulement une transition administrative. Quatrièmement, une histoire des réseaux d'influence et des médiations françaises, au-delà du face-à-face franco-américain, l'ami américain s'intéresse aux intermédiaires, aux relais et aux figures françaises qui ont servi de point d'appui à l'influence américaine. Le livre fait apparaître un paysage politique plus complexe qu'une simple opposition binaire entre deux camps. Il interroge les trajectoires de responsables, de hauts fonctionnaires et d'acteurs de la construction européenne ou des affaires militaires, en montrant comment les alliances, les fidélités et les calculs personnels peuvent peser sur l'orientation d'un pays. Cette dimension est importante, car elle évite de réduire l'histoire à une confrontation extérieure. Une grande partie du rapport de force passe aussi par des médiations intérieures. Le propos de Branca est alors moins de dénoncer des individus que de mettre au jour une architecture d'influence. Cela donne au livre une portée politique plus large, puisqu'il pose la question de la vulnérabilité des élites nationales face à une puissance dominante. Le lecteur comprend ainsi que la souveraineté ne se perd pas seulement par invasion, mais aussi par consentement, compromis et alignement successifs. En dernier lieu, une lecture gaullienne de la guerre froide et de l'érosion de l'indépendance française, l'ouvrage ne s'arrête pas à la libération. Il prolonge son analyse jusqu'aux décennies de la Ve République pour évaluer la continuité ou la rupture avec la ligne gaullienne. Cette extension historique permet de mesurer que la question américaine ne disparaît pas avec la fin de la guerre, mais se reconfigure à travers l'OTAN, la stratégie nucléaire, les crises internationales et les transformations européennes. Branca propose ainsi une lecture de longue durée où l'indépendance française apparaît comme un combat fragile. Progressivement affaibli après De Gaulle, le livre insiste sur les écarts entre le projet initial du général et les choix de ses successeurs, ce qui lui donne une dimension quasi testamentaire. Cette perspective intéressera surtout les lecteurs qui veulent comprendre les fondements de la politique étrangère française contemporaine plutôt que se limiter à l'histoire événementielle. L'intérêt du livre est précisément de relier les décisions d'hier à des débats toujours actuels sur la place de la France dans le monde, l'autonomie stratégique et les limites de l'Alliance Atlantique. En conclusion, l'ami américain s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire politique, d'histoire diplomatique et à ceux qui s'intéressent à Charles de Gaulle, à la construction de la souveraineté française et aux relations transatlantiques. Il conviendra aussi à un public plus large, qui souhaite comprendre comment se fabrique un récit national et comment il peut être contesté par les archives. Son intérêt principal tient à sa capacité à articuler une narration accessible avec un appareil documentaire abondant, ce qui en fait un livre à la fois lisible et nourri de sources. Par rapport à d'autres ouvrages sur la libération ou la guerre froide, il se distingue par son choix de prendre au sérieux le point de vue français de l'indépendance, plutôt que de traiter l'Alliance américaine comme un cadre naturel et incontestable. Cette orientation lui donne une force interprétative forte, même si elle implique une lecture engagée. Pour qui cherche un essai qui oblige à reconsidérer des certitudes sur l'après-1940, sur l'OTAN, sur le rôle de Roosevelt ou sur l'héritage gaullien? C'est un livre particulièrement utile. Il apporte moins un consensus qu'un angle net, ce qui fait précisément sa singularité dans le paysage des essais historiques grand public. Si vous souhaitez soutenir Eric Branca, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.